premier temps d'une nouvelle série de La Fabrique de l'Histoire consacrée à la manière dont on raconte l'histoire des femmes et du genre aujourd'hui. Ce matin, après un nouvel épisode de notre feuilleton sur la fabrique de la guerre froide, nous ouvrirons avec Séverine Yatar, qui a préparé cette série avec nous, une nouvelle série de la fabrique qui s'interrogera en cette semaine du 8 mars, journée internationale des femmes, sur la façon dont on écrit aujourd'hui justement l'histoire des femmes, du féminisme et du genre. En ce premier jour de notre série, nous aurons le plaisir de recevoir Christine Barre, professeure à l'université d'Angers, auteure de nombreux ouvrages sur l'histoire des femmes, du féminisme, du genre, qui a dirigé, avec la collaboration de Sylvie Chaperon, le tout récent Dictionnaire des féminismes aux presses universitaires de France, un ouvrage de référence de près de 1700 pages qui aborde à la fois la biographie de grandes figures du féminisme des 18e, 19e, 20e et 21e siècles, mais aussi de grandes notions transversales qui touchent la vie des femmes pendant toute cette période. Mais tout de suite, comme chaque l'a dit, je vous l'ai promis, un nouvel épisode, le 66e de notre feuilleton La Fabrique de la guerre froide, préparé par Anaïs Quin et Françoise Camard.
Уважаемые гости, 27-й съезд
КПСС. Do you place and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide.
Voici donc depuis quelques heures une nouvelle république à inscrire sur la carte d'Afrique, la République populaire d'Angola. Président contesté par ses ennemis Agostinho Neto, capitale Luanda. Le calendrier de l'indépendance d'Angola a été parfaitement respecté, à un détail près peut-être. Depuis 48 heures, il n'y a plus d'eau à Luanda. Le château d'eau qui alimente la ville, sans doute tombé aux mains des adversaires d'Agostinho Neto. En tout cas, les Portugais, tous les Portugais sont partis. 5 siècles d'histoire coloniale. 15 ans de lutte armée.
En 1977, la guerre civile en Angola prend de l'ampleur. Décolonisée tardivement, la recomposition politique du pays devient un enjeu de guerre froide pour les grandes puissances. Emilia Robin.
La guerre de décolonisation de l'Angola, on considère qu'elle commence en 61 quand le MPLA, le Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, marxiste-léniniste, mène un assaut contre la prison de Luanda pour libérer des prisonniers politiques. Cet assaut s'accompagne, outre l'assaut sur la prison proprement parlée, d'exactions envers le pouvoir portugais en place, fait de l'ordre de 2000 morts chez les Portugais, entraîne une répression politique qui cause la mort d'environ 10 000 Africains et une partie du MPLA s'exile en Congo voisin. Et à partir de 61, l'on est dans un climat de guerre civile et de guerre de libération. Le Portugal ne veut pas lâcher ses colonies et en fin de compte est soutenu par les États-Unis en particulier, dans la mesure où c'est un môle de résistance anticommuniste parce que l'URSS, devant ces pays décolonisés qui ont besoin d'appuis internationaux, qui ont besoin de débouchés, qui ont besoin de cadres tout simplement, qui soient formés pour administrer le pays, qui ont besoin d'aide militaire, dont les besoins sont gigantesques, l'URSS voit là une façon d'étendre son influence et de trouver des appuis dans une doctrine générale de libération des peuples et de soutien aux opprimés. Donc, le Portugal est soutenu par les États-Unis qui considèrent ces colonies, bien qu'ils n'approuvent sans doute pas en tant que telle la dictature de Salazar, considèrent que c'est un moule de résistance contre l'URSS. Dans les années 50, plusieurs mouvements de libération se créent, différents partis politiques en fin de compte en Angola. Principalement à partir des années 60, il y en a 3, le MPLA marxiste, le Front National de Libération de l'Angola, FNLA, qui est plutôt pro-occidental, et l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, qui est globalement social-démocrate. Et nous avons donc une guerre civile, une guerre de décolonisation assez classique, effectivement. Le Portugal envoie 200 000 soldats pour maintenir l'ordre, encourage une politique de colonisation finalement au XXe siècle avec l'envoi de plus d'un demi-million de Portugais pour s'installer en Angola. Et donc, ancrer la présence portugaise sur le territoire. Néanmoins, en 1974, la révolution des œillets qui a lieu au Portugal renverse le gouvernement en place et les officiers qui font ce coup d'État sont soutenus en particulier par le Parti communiste portugais clandestin, qui n'est plus en mais plus clandestin, et l'effondrement de la métropole, comme classiquement, va entraîner l'indépendance des colonies progressivement en 1974-1975. L'indépendance de l'Angola est prévue en 1975. Les trois partis existants, MPLA marxiste et les deux sociodémocrates occidentaux, FNLA et UNITA, passent un accord début 1975 pour encadrer l'indépendance. Mais dès l'indépendance officielle, 11 novembre 1975, est proclamé un État, en fin de compte, marxiste. Et le conflit commence littéralement, militairement parlant, avec les deux autres factions que sont l'UNITA et le FNLA. Et donc nous avons le début d'une guerre civile qui va durer, en fin de compte, jusqu'en 1991, qui fera plus d'un million de morts. L'Angola sera l'un des pays les plus truffés de mines qu'il y a au monde. Humainement, c'est une catastrophe. Mais ce conflit, évidemment, ne reste pas purement civil, dans la mesure où le MPLA étant pro-marxiste et le FNLA et UNITA étant pro-occidentaux, les pays étrangers vont soutenir ces États. Le Congo, où s'étaient réfugiés les MPLA, va également intervenir dans le conflit. L'Afrique du Sud, qui voit là un facteur de déstabilisation, d'autant que l'ANC, le Congrès noir africain, a des bases arrières dans les colonies portugaises. Donc l'Afrique du Sud va intervenir dans ce conflit, dont nous avons un conflit qui s'internationalise, et très directement, l'URSS va intervenir, envoyer des troupes pour soutenir le gouvernement en place pro-marxiste. Et dans ces années 75, au-delà du cas précis de l'Angola, qui est certes dramatique humainement, mais c'est une guerre civile classique, c'est un moment important dans la mesure où c'est le moment où l'URSS commence à étendre directement ses alliances et son influence militaire, non seulement en Europe et en Asie, mais également en Afrique. La parité nucléaire stratégique est acquise avec les États-Unis et sa flotte se développe sur toutes les mers, flotte sous-marine et flotte classique. Et l'URSS trouve des points d'appui, signe des traités d'amitié et de coopération avec le Yémen, l'Éthiopie, l'Angola également. Et du point de vue occidental, on a là une extension d'influence soviétique très directe qui inquiète énormément, d'où un soutien accru aux deux autres factions. Ce qui est assez intéressant avec l'Angola, c'est qu'on a un cas presque emblématique de division socialiste du travail, comme on disait, à savoir qu'il n'y a pas seulement l'URSS qui intervient pour le coup militairement avec l'envoi de troupes, mais vous avez également Cuba dont la spécialité, si l'on peut dire, serait plutôt la guérilla. Donc vous avez Cuba s'occupe d'entraîner les troupes qui assurent la défense extérieure et structure les cadres de l'armée. Vous avez la RDA qui passe plutôt des accords de nature économique. Vous avez souvent des ventes d'armes provenant de Tchécoslovaquie. Vous avez la Bulgarie, dont la spécialité à l'époque est le parapluie bulgare, et donc dont les services des renseignements apportent une aide également aux frères angolais. Donc vous avez finalement beaucoup de pays du bloc communiste qui participent à ce conflit, se retrouvent présents.
Voilà donc pour ce 66e épisode de notre feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide, que vous pouvez télécharger cet épisode ainsi que tous les autres séparément du reste de l'émission d'aujourd'hui pour pouvoir garder avec vous l'ensemble de cette série, donc de plus de 60 épisodes et bientôt 70. Et nous ouvrons maintenant avec vous, Séverine Yattard, cette série de La Fabrique consacrée à la façon dont on écrit l'histoire des femmes, l'histoire des féminismes et l'histoire du genre. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons le plaisir de recevoir Christine Barre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université d'Angers, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'histoire des femmes, sur l'histoire des féminismes, et vous êtes parvenu enfin, ça doit être long, à terminer avec de très nombreux auteurs, donc et avec la collaboration de Sylvie Chaperon, ce dictionnaire des féministes, donc entre la France, sur la France, 18e, 21e siècle, aux presses universitaires de France, un énorme ouvrage de près de 1700 pages, donc d'abord, une première question, pourquoi ce S ? Pourquoi des féministes ?
Des féministes. C'est vrai qu'on insiste sur le pluriel tout le temps, sur toutes les sortes de diversités qu'on peut trouver dans le féminisme, y compris avant qu'il ne soit un mouvement. Donc ce sont des expressions plurielles, des parcours pluriels. Qu'un dictionnaire met justement très bien en évidence.
Et comment choisit-on un terme hanté, c'est-à-dire un début pour pouvoir justement réfléchir à cette question du féminisme, alors même que le mot n'existe pas, Christine Barre?
Oui, alors ça c'est une question récurrente et qui alimente des débats. Est-ce qu'on peut avoir un usage anachronique du qualificatif féministe, qui est pour la première fois employé par Hubertine Auclair en 1882. Il est évident que la contestation de l'inégalité entre les sexes, la revendication d'une plus grande liberté, d'une plus grande autonomie pour les femmes, remonte à bien plus tôt. Faut-il commencer avec la Révolution française? C'est aussi un débat. Hein. On trouve des penseurs et des penseuses de l'égalité des sexes avant la Révolution. Et traditionnellement, on remonte à Christine de Pizan, la cité des dames, qui
donc la fin du Moyen Âge.
Voilà la fin du Moyen Âge. Bon, donc on a indiqué 18e au sens large. On a quand même des notices antérieures et une notice synthétique sur féminisme d'ancien régime, parce qu'effectivement, tout ne commence pas en 1789.
C'est Brignata.
Et puis parce qu'il y a, enfin, en l'occurrence, si on commence à parler de certaines des notices qui sont dans le dictionnaire, il y a par exemple la Sieffard, il y a Eliane Viennot, il y a des chercheuses qui sont investies beaucoup justement dans la recherche pour remettre en valeur en tous les cas certaines figures du féminisme de cette période.
Ouais, qui emploient le terme féminisme, mais qui ont leur propre dictionnaire aussi des femmes de l'ancien régime. Donc on a quelques notices, mais c'est sûr que pour l'essentiel. On a des notices 19e et 20e siècle.
Alors, pour revenir, c'est cette idée de dictionnaire. Parce que vous le dites bien, Christine Barre, dans vos propos, vous expliquez la démarche, etc. Et vous dites, faire un dictionnaire, c'est aussi, c'est pas un aboutissement, mais quoique, d'un point de vue historiographique, c'est aussi une instance de reconnaissance d'une idéologie, d'un combat qui est quand même, il faut quand même le préciser, qui a été souvent et qui est encore nié, dénié, pas du tout considéré justement ni comme un engagement politique, ni comme une réflexion théorique. Et donc voilà, le fait d'écrire ce dictionnaire, c'est aussi une manière de reconnaissance.
Un outil de visibilité, hein, très très important, et puis aussi quelque chose qui est de l'ordre mémoriel, un petit peu comme Michel Perrault l'a dit à propos du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. C'est une autre lecture qu'on peut avoir du dictionnaire, chercher des noms pour renommer des noms de rue, pour faire entrer des femmes au Panthéon. Donc il y a cet aspect mémoriel, mais avant tout c'est un dictionnaire historique. C'est très important et universitaire, nourri par des recherches universitaires et qui respecte les règles académiques. On ne cherche pas à tresser des couronnes, à célébrer des femmes. On montre parfois leurs contradictions, leurs ambiguïtés. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des femmes. Ce n'est pas un dictionnaire des femmes féministes, mais un dictionnaire des féministes.
Il y a quand même quelques hommes.
Il y a des hommes.
Ce qui est très intéressant, effectivement, dans cette forme dictionnaire, c'est qu'elle fait le point, comme vient de le dire Séverine Yatard, sur des années de recherche. Et d'une certaine façon, elle est un peu l'acmé de tout un travail de recherche que vous avez mené vous-même et que toutes les participantes ou tous les participants de ce dictionnaire ont mené depuis quoi? Une vingtaine ou une trentaine d'années. Et on a l'impression que c'est une pierre de touche, pourrait-on dire, qui permettrait justement ensuite de construire autre chose, Christine Barre.
Alors, c'est vrai que ce dictionnaire est, on l'espère, le reflet des recherches nombreuses qui ont été faites sur l'histoire des féminismes en France, et plusieurs générations ont œuvré là, beaucoup sous la direction de Michel Perrault au départ. Hein. Disons qu'il y a au moins trois générations qui ont travaillé pour ce dictionnaire.
Mais aussi des militantes, il semble aussi, Christine Barre.
Quelques militantes qui ont été associées à la rédaction des notices sur la deuxième vague et le féminisme contemporain.
La deuxième vague.
La double casquette aussi, parfois,
souvent, hein, militante
féministe dans les années 70, devenue chercheuse.
Et comme des auteurs du Métron, on peut être des militants ouvriers et devenir des historiens du mouvement ouvrier. Vous allez employer cette expression qui n'est peut-être pas habituelle auprès de nos auditeurs et auditrices, féminisme de la deuxième vague, et il y a même des féministes de la troisième vague. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors, c'est une manière de périodiser les vagues, les moments de mobilisation féministe. Hein. Donc, c'est une convention dans la manière de raconter l'histoire du féminisme, parfois contestée, mais en gros, ça s'est quand même imposé.
Première vague, c'est donc
première vague, fin 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Deuxième vague, les années 60 jusqu'au milieu des années 90. Et troisième vague depuis peut-être 95, en fait, jusqu'à nos jours.
Et donc, pourquoi avoir choisi ces termes chronologiques, justement, pour chacune de ces vagues? Qu'est-ce qu'il se passe, donc, dans le milieu des années 60 pour qu'on puisse imaginer une deuxième vague qui soit différente de la première?
Mais il y a surtout des reflux et des entre-deux vagues, des moments de recul, de régression des droits des femmes. Donc, c'est un petit peu cet éternel recommencement que dit l'image de la vague. En fait, il faut plus penser en termes de superposition de vagues, parce que la première vague ne s'est pas tout à fait éteinte. Elle était avant tout préoccupée par l'égalité des droits dans la sphère publique, et ça, on le retrouve encore dans un certain nombre d'associations féministes très anciennes qui existent aujourd'hui encore. La deuxième vague, elle est plus, elle se réunit autour du slogan « le privé est politique ». C'est la politisation des questions sexuelles, c'est la contraception, c'est l'avortement, la sexualité, la libération sexuelle. C'est contemporain de la révolution sexuelle sur laquelle les féministes apportent un point de vue critique. Et puis la troisième vague, on a hésité à la qualifier comme ça. Il y a trois éléments pour définir une vague, un thème principal, un certain type de moyen d'action, d'expression, et puis un contexte. Et certainement qu'à partir de la fin du XXe siècle, on entre dans une période nouvelle qui n'a plus rien à voir avec le côté libérateur, émancipateur, la décolonisation dans les années 60-70. Et le féminisme crée ce contexte, bien sûr, mais il le subit aussi et s'y adapte. Et donc la troisième vague, elle a un aspect plus défensif que la deuxième vague, et elle est très composite aussi. Il y a une prolongation des thèmes qui existaient auparavant, mais aussi la mise en avant de l'intersectionnalité, par exemple, de l'imbrication des dominations.
Intersectionnalité, hein. C'est donc la possibilité de mener plusieurs combats à la fois, femmes et races, par exemple, femmes et noires, femmes et issues du monde arabe, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle en termes, donc il y a une entrée dans le dictionnaire sur ce thème-là, en termes en particulier de recherche, la question de l'intersectionnalité, Christine Barr.
Voilà, l'imbrication des dominations et le fait qu'on ne peut pas isoler le genre. Le genre est un de ces rapports de domination, mais il faut l'étudier conjointement avec d'autres rapports de domination. Est-ce si récent dans l'histoire du féminisme? Le polymilitantisme est très, très fréquent.
Et d'ailleurs, dans l'article Intersectionnalité, on rappelle que des militantes noires du 19e siècle ont commencé à poser cette question de savoir où étaient les noires américaines, en particulier esclaves ou descendants d'esclaves, dans les combats féministes de l'Amérique du 19e siècle.
C'est vrai. Donc oui, le dictionnaire est scandé par des... Enfin, il y a des bornes chronologiques, hein, d'ailleurs, vous avez choisi d'aller jusqu'à nos jours, il faut le préciser. Donc il y a des figures féministes d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de Clémentine Autain, de Roselyne Bachelot, ou d'autres, hein, évidemment.
Florence Foresti.
Voilà, Florence Foresti aussi, évidemment, des Wani Ernaud. Hein, et ça, on en reparlera. Et puis, entrecoupé par des grandes problématiques qui ont d'ailleurs leurs entrées thématiques du type féminisme d'ancien régime, féminisme d'État, féminisme matérialiste, féminisme modéré, féminisme radical. Enfin, les grands courants, on va dire, du féminisme qu'on peut retrouver aussi à travers chacun de ces itinéraires. De femmes engagées.
Christine Barr.
Alors, l'idée était de donner des clés de lecture. Au départ, nous avions envie de faire un dictionnaire biographique des féministes, et on en voit la trace dans le titre, Dictionnaire des féministes. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait donner vraiment des clés de lecture. Pourquoi c'est intéressant de signaler que telle féministe est protestante ? Un article « Protestantisme » va expliciter les liens privilégiés qui existent entre le courant protestant en France et évidemment dans les pays anglo-saxons et la cause féministe au 19e, au 20e, c'est toujours vrai de nos jours. Donc ce sont pas seulement des notions, parce qu'on ne voulait pas faire un dictionnaire philosophique ou théorique du féminisme.
Comme il y avait déjà eu d'ailleurs un dictionnaire plus sociologiste.
Ce dictionnaire a été fait par des sociologues principalement. Donc bien sûr, on retrouve les étiquettes. les différentes sortes de féminisme. Il y en a beaucoup, on pourrait les décliner même encore plus que ça. Des entrées aussi qui donnent des repères sur le cycle de la vie. Le devenir féministe, le vieillir féministe, le mourir féministe. En tout cas, mourir dans la dignité, c'est un combat cher aux féministes.
Mais ce qu'on
le
sait
mariage,
pas
la séduction, c'est... la maternité,
l'amour,
l'articulation
féminisme-amour.
Voilà. Donc toutes ces choses qu'on retrouve dans des récits de vie, on trouve dans ces notices thématiques une mise en perspective possible.
Donc c'est une dimension quasi encyclopédique aussi de ce dictionnaire, c'est-à-dire qu'on voit bien la différence entre dictionnaire et encyclopédie, mais il y a une part d'encyclopédisme dans cette volonté de rajouter aux simples questions biographiques des questions qui sont, disons, plus lestées de théories, en particulier de théories qui couvrent la totalité de la période envisagée, c'est-à-dire 18e, 19e, 20e siècle.
Peut-être, mais on sait que l'exhaustivité est hors de portée. Et, on a évidemment en tête le modèle du Métron, du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. On y est très attaché. Il y a des notices communes. Hein, beaucoup de féministes ont été aussi des militantes de la gauche et
du mouvement ouvrier.
Du mouvement syndical, du mouvement ouvrier en général. Donc, on a cet instrument, le Métron, qui tend vers l'exhaustivité, mais qui a commencé dans les années 60 et qui n'est toujours pas terminée aujourd'hui. Voilà, on avait quand même envie d'offrir un dictionnaire plus rassemblé, mais quand même avec 421 notices biographiques, 137 notices thématiques et 196 auteurs.
Oui, alors ce qui est intéressant aussi dans un dictionnaire comme celui-ci, c'est qu'il n'y a pas que des féministes revendiquées, c'est que vous, d'une certaine façon, vous embarquez avec vous figures qui sont des figures... Alors il peut y avoir par exemple dans le cinéma la figure d'Agnès Varda, mais je le citais effectivement pour le spectacle Florence Foresti, qui peut-être ne s'est peut-être jamais revendiquée, je ne sais pas très bien, comme féministe, mais dont le travail d'artiste participe justement d'une vision justement de la place des femmes dans la société. Et donc on voit bien que d'une certaine façon il y a le combat d'un côté, mais aussi les propositions qui sont très variées de celles et ceux qui veulent faire avancer la cause des femmes. Christine Barr.
C'est un combat politique, social, culturel. Donc il y a des expressions culturelles du féminisme qu'on n'avait pas envie de laisser de côté. En même temps, je crois que c'est une évolution aussi dans la manière d'écrire l'histoire des féminismes, d'associer autant les artistes, quel que soit leur mode d'expression, et en explicitant à chaque fois les contraintes qui pèsent sur elles dans un pays comme la France, où il n'est pas bon de se
féministe.
Déclarer féministe, surtout dans ce monde artistique. L'étiquette est plutôt stigmatisante. Donc certaines artistes l'assument, d'autres non, tout en ayant une œuvre profondément féministe.
Comment peut-on la définir quand on s'entend comme ça dans un pool, un groupe de gens qui conçoivent un dictionnaire pour dire elle ou lui, nous pouvons le faire rentrer dans ce dictionnaire, même s'il ne sait pas ou elle ne sait pas déclarer comme tel. Qu'est-ce qui, d'une certaine façon, finit par vous convaincre collectivement qu'il ou elle a sa place?
C'est la réception. C'est qu'en fait, l'individu ne décide pas tout. C'est l'image de cette personne dans les médias et auprès de son lectorat, par exemple.
C'est pour ça qu'on voit Nikki de Saint-Phalle, par exemple, évidemment, mais aussi Annette Messager, mais aussi Louise Bourgeois, qui toutes, d'une manière ou d'une autre, ont parlé de la condition des femmes par l'art dans le XXe siècle.
Mais qui se déclare assez facilement féministe pour celle-là.
Annie Ernaux, par exemple.
Oui.
Aussi.
Oui, bien sûr.
Parce que d'autres, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire n'est pas féministe qui se dit féministe et n'est pas féministe qui ne se dit pas féministe, en fait.
Il y a des faux féministes.
Voilà.
Et c'est à un certain moment, quand le féminisme a la cote, par exemple dans les années 1900, on a une profusion d'essais pseudo-féministes qui sont en réalité anti-féministes. Mais il est de bon ton, hein, il paraît moderne dans ces années-là de s'afficher féministe. Ça dilue le sens du mot. Le mot a toujours, de toute façon, été très piège. Hein, très, l'étiquette n'est pas très sûre. Qu'est-ce que ça veut dire au fond, féministe ? Il y a toujours de l'ambiguïté, des hésitations, un malaise même avec cette identité politique. Et dès l'origine du terme.
Et puis vous faites place, alors par contre, entre guillemets, peut-être aux féministes plus officielles, évidemment, donc celles qui ont dirigé, initié des journaux féministes, mis en place des comités pour l'amélioration de la condition des femmes ou autres après au XXe siècle, au XXIe siècle, et puis les féministes d'État aussi, ce qu'on appelle les féministes d'État, donc ministres, chargés de mission, qui ont œuvré et qui œuvrent voilà, encore pour cette question de l'amélioration de la condition des femmes, comme on disait.
On espère ne pas avoir fait seulement un dictionnaire des grandes féministes.
Non, vous dites bien, c'est pas que
oui,
les
parce que vous trouverez mais... aussi des notices de féministes qui ont eu une action surtout locale. Vous trouverez aussi des notices de féministes dont on ne parle jamais parce qu'elles sont en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion. Voilà, donc on a essayé de montrer toute cette diversité.
Et faire... Par exemple, il y a un article sur Rennes, la ville de Rennes.
Oui,
et donc alors, ça, c'était
à la faveur, c'est vrai, à la faveur de travaux d'histoire sur les féminismes à Rennes. Ça n'existe pas encore dans toutes les villes de France, mais à Rennes, c'est particulièrement exemplaire. Un livre est sorti sur cette histoire. Enfin, il y a des militantes de l'histoire, en fait, du féminisme.
Et effectivement, on peut dire aussi que, à l'occasion de la révision du procès Dreyfus, Séverine s'est rendue à Rennes, qu'elle a plus ou moins fait scandale avec celles et ceux qui l'accompagnaient, donc en particulier, je crois, du journal La Fronde, qui était son journal à la fin du 19e siècle, et qu'effectivement, elle a fait bouger cette ville qui était la ville de Rennes. C'est ce qu'ont raconté les historiennes qui ont travaillé sur cette ville de Rennes. Donc effectivement, on voit bien que vous prenez en compte les travaux de première main qui ont été menés depuis quelques années par telle ou telle historienne des femmes, du féminisme et du genre, en l'occurrence Christine Barr, et que cela vous permet d'ajouter une entrée qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu ces travaux, Christine Barr.
Oui, certainement, même si on n'a pas fait toutes les villes, on le regrette, hein, on n'a pas d'entrée Nantes ou Lille,
ou Lyon.
Marseille, il y a déjà un dictionnaire des Marseillaises qui est remarquable, donc on le regrette, mais encore une fois, on est obligé de faire des choix. Dans ces choix, il y a une part de hasard, une part de subjectivité...
Parfois, c'est
difficile d'expliciter totalement tous les choix.
Et il faut d'ailleurs tirer notre chapeau à Colette Cognier, qui a été une de celles qui a justement travaillé sur ces parcours de femmes à Rennes, qui est disparue récemment, à qui on rend hommage. Oui. Alors, peut-être aussi, on vous attend, j'imagine, au tournant avec un dictionnaire comme celui-ci, Christine Barr, et toutes celles et ceux qui ont participé à l'écriture de ce dictionnaire, parce qu'il y a des notices qui sont peut-être plus difficiles que d'autres à écrire, la notice des Fémènes, la notice de Elisabeth Banater, la notice d'Antoinette Fouque, qui a revendiqué d'avoir créé le MLF avant tout le monde, d'une certaine façon, en 1968. Et donc, ces notices-là sont peut-être un peu plus complexes parce qu'elles reposent aussi sur des dissensions à l'intérieur de celles et ceux qui travaillent sur le féminisme, Christine Barr.
Non, pas réellement de dissension parmi celles et ceux qui travaillent sur l'histoire du féminisme dans les universités. Pas dans la recherche, dans le monde militant.
Voilà,
oui,
c'est ça.
Mais bien là, on n'a pas choisi la polémique, bien sûr. Et on s'en tient aux faits. Voilà. Et on a veillé à ce que le ton reste assez neutre et dépassionné.
C'est Vignata.
Et d'ailleurs, justement, Christine Barr, cette question aussi de l'histoire des féminismes, alors peut-être des féminismes contemporains, enfin, c'est quand même une histoire qui reste une histoire militante, avec des militantes, comme on le disait tout à l'heure, qui elles-mêmes ont entrepris parfois de faire des recherches en histoire, donc qui sont à la fois actrices et aussi chercheuse, et quel est le rapport finalement entre des historiennes d'une génération, de la génération suivante, avec par exemple les féministes historiques du MLF et peut-être aussi la difficulté d'écrire une histoire, par exemple, du MLF et du féminisme de ce moment-là.
Parce que
il y a beaucoup de questions.
Tout d'un coup.
Non, mais qui me...
Vous avez du temps.
Je pense que c'est une histoire. Ce n'est pas une histoire militante. C'est une histoire qui a des effets militants. Et il peut être militant de revendiquer une place normale pour ce type d'histoire dans les enseignements, dans la recherche, dans la manière de raconter l'histoire politique. Là, il faut de l'énergie militante pour s'obstiner à rappeler tout le temps que l'histoire du féminisme est négligée, oubliée, n'est pas réellement considérée comme une histoire politique, comme un véritable courant politique. Là, il y a encore beaucoup de travail à faire. S'occuper de la préservation des archives du féminisme, ça
ce
peut aussi
faites,
ce que je fais, ce que nous faisons, on est nombreuses et nombreux dans l'association Archives du Féminisme. C'est une forme de militantisme intellectuel, mais on entend aussi les connotations problématiques du mot militant dans une histoire militante du féminisme.
Bah, je pense
et là, on
parce
essaie
qu'on...
de s'en oui. dégager. C'est vrai que la génération MLF en France a été très marquée par des conflits internes. On appartient à une autre génération, Sylvie Chaperon et moi, et en plus on est en contact avec les jeunes doctorants
qui entament là des recherches,
qui s'y mettent aussi ouais. et qui sont quand même qui ont de la distance par rapport à ça.
Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Une Fabrique de l'Histoire consacrée pendant toute cette semaine à la question, à la façon dont on peut écrire aujourd'hui et raconter l'histoire des femmes, l'histoire du genre, à l'occasion de la parution, et ce n'est pas le seul ouvrage sur ce thème-là dont on parlera dans cette semaine avec vous, Séverine Yatin, du Dictionnaire des féministes France 18e-21e siècle, paru aux presses universitaires de France, sous votre direction, Christine Barr, avec la collaboration de Sylvie Chaperon et de nombreux auteurs. Alors, tout de même, cette question des débats, des débats qui sont des débats internes, pourrait-on dire, au féminisme, quand on est historien, et surtout quand on travaille sur une matière relativement récente, ça doit être, historienne comme vous, en l'occurrence Christine Barr, ça doit être difficile de s'en détacher d'une certaine façon. Comment fait-on pour pouvoir avoir cette fameuse neutralité que l'on demande, et même si effectivement elle est difficile à atteindre, aux chercheurs et à la chercheuse, dans un domaine qui est souvent réchauffé par l'actualité? Et c'est vrai que, par exemple, sur ces questions de débats internes au féminisme, et en particulier à ce féminisme que vous avez qualifié tout à l'heure de troisième vague, ce sont des questions qui sont souvent remises sur le devant de la scène, en particulier à l'occasion des débats sur le voile, comme très récemment. Comment fait-on pour pouvoir s'en tirer avec ces questions d'actualité, Christine Barr?
Et on fait un pas de côté et on s'appuie sur des travaux universitaires qui, eux aussi, prennent un petit peu de distance, sinon on n'arrive pas à penser. Donc ça, je pense que c'est quand même, je profère une banalité là, en fait c'est pas bien différent des autres champs de l'histoire, je trouve.
Mais par exemple, j'ai cherché, mais j'ai peut-être eu mal cherché, mais j'ai cherché une entrée islam. Il y a aujourd'hui des féministes islamiques, musulmanes, je n'ai pas trouvé non plus. Voile,
Ah ben justement,
j'ai mal cherché.
Je pense que certaines féministes vont s'étonner ou nous reprocher cette notice ou la notice transféminisme. On a fait un choix, c'est justement ce choix de montrer la diversité.
Et la variété.
Et puis c'est aussi un dictionnaire historique, donc ça permet de mettre en perspective les débats actuels, par exemple la notice de Pascal Barthélémy sur le colonialisme aide en une synthèse vraiment brillante à comprendre le rapport des féministes à la question coloniale.
Et par exemple, je pense aussi à la notice qui porte sur Anne Zelensky, quand même féministe historique, justement avec cette question du voile des années 80, qui prend position, donc de plus en plus fermement contre le voile, au point d'en devenir contre l'islam, visiblement. Et ça dit quelque chose aussi encore sur une nouvelle divergence entre féministes.
Oui, bon,
parce que c'est un courant politique et donc
la position d'Anne Zelensky, Anne Zelensky est quand même extrêmement isolée, mais nous n'avons pas censuré ce.
Non, mais il n'y a pas à censurer d'ailleurs
cette évolution qui la rapproche sur la thèse de l'islamisation de l'Europe et du danger qu'elle représente qu'elle représenterait évidemment pour les droits des femmes, tout ce qui la rapproche de l'extrême droite et de l'ultra droite et des apéros saucisson pinard. Et en mettant en avant une étiquette de féministe historique, comme on dit dans certains médias. Donc ça n'a pas été tu. On n'a pas non plus choisi de faire disparaître Anne Zelensky de l'histoire du féminisme pour autant. Respecter cette diversité des courants, intégrer les courants modérés aussi, qui sont souvent oubliés.
Qu'est-ce que vous appelez les courants modérés du féminisme, Christine Barr?
Les courants qui sont favorables à une évolution raisonnable du statut des femmes, à des réformes par petits pas, qui sont... y a une dialectique entre courants modérés, réformistes, radicaux dans l'histoire du féminisme. Et les féminismes modérés peuvent être jugés par les autres, et sont souvent jugés par les autres courants non féministes. Donc nous, on n'a pas à trancher là-dessus. On a à montrer, au contraire, ces conflits entre tendances, sans exclure a priori telle féministe parce qu'elle aurait pris position contre l'avortement ou contre le droit de vote, ce qui est fréquent parmi les féministes du début du XXe siècle.
Oui, et d'ailleurs, vous êtes vous-même une spécialiste justement de ces questions du droit de vote. Vous avez rédigé, je crois, l'article suffragisme, justement, et de ce long combat qui, effectivement, n'a pas eu les mêmes positions. Ceux qui sont pour celles qui sont pour le droit de vote n'ont pas eu les mêmes positions selon qu'on était dans la deuxième moitié du 19e siècle, au début du 20e, ou encore dans la deuxième moitié du 20e siècle, Christine Barr.
Oui, ça peut sembler surprenant que mais le droit de vote a... que Hubertine Auclert a poussé en avant, c'est le combat de sa vie. Elle y voyait la clé de voûte de tous les autres droits. Donc il fallait d'abord conquérir pour elle le pouvoir politique. Elle est très isolée jusqu'à la fin de sa vie. Elle meurt en 1914. Là, elle a réussi à convaincre un peu plus de féministes. L'Union française pour le suffrage des femmes apparaît en 1909. Là, on a une grande association qui se crée. Le suffragisme naît en France à ce moment-là. Mais beaucoup de féministes... au XIXe siècle, le féminisme n'est pas un suffragisme. La revendication reste isolée.
Alors, par exemple, il y a Olympe Audouard, qui est donc justement une femme du XIXe siècle, 1832-1890, qui peut paraître une féministe radicale parce qu'elle va mener des procès contre les médias, elle va même provoquer en duel le directeur du Figaro, quand même. C'est pas rien. Elle va contester le personnage de Bas-Bleu à Jules Barbey d'Aurevilly. Mais, en revanche, elle ne sollicite pas le droit de vote, par exemple, pour les femmes. Et elle souhaite encore moins les voir députées parce que la politique corrompt et corromprait aussi les femmes. Et elle, en revanche, elle demande évidemment le droit au travail, le droit à l'instruction, le droit de gérer sa fortune personnelle. Là, on voit bien la diversité des combats et des priorités.
Christine
Peut-être. Oui, et puis on trouve aussi le courant différentialiste, qui est sans doute devenu assez minoritaire depuis Beauvoir en France. Il est quand même assez fort pendant la première vague.
Est-ce que vous pouvez justement...
Et au nom de la différence entre les sexes, les féministes ne mettent pas toujours en cause cette organisation sexiste, on dirait aujourd'hui, de la société qui... naturaliste, biologisante, et qui tend à réduire les femmes à leur fonction maternelle. La fonction maternelle, par exemple, pour beaucoup de féministes, c'est un point d'appui identitaire et revendicatif, et donc elles peuvent avoir une culture de la différence des sexes assez surprenante pour nous aujourd'hui. Envisager l'égalité sur certains plans, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des droits civils, bon, dans la famille, tout en respectant une répartition des rôles qui est un gage de complémentarité, d'harmonie sociale. Et féministe aussi, ce discours-là. Donc, on ne peut pas lire l'histoire du féminisme avec les lunettes, forcément, de Simone de Beauvoir. C'est une des expressions du féminisme, mais une parmi d'autres.
C'est pour ça, d'ailleurs, que cette entrée maternité est une entrée très intéressante, parce qu'effectivement, on y voit bien les ambiguïtés, les différences, les débats que cette question de la maternité pose aux femmes qui veulent justement plus d'égalité, à différents moments, pourrait-on dire, de ce combat des féministes au 19e et au 20e siècle.
Oui, et puis ça va générer aussi tout un féminisme dont on parle moins aussi depuis quelques décennies, mais ce féminisme qui demande pour les femmes une protection légale. Donc c'est un discours qui ne remet pas en cause le principe d'une faiblesse, hein. Les femmes seraient des êtres faibles à protéger des hommes aussi. C'est aussi comme ça qu'il faut le comprendre, avec une vision de la sexualité, enfin de l'hétérosexualité, qui entre les lignes est assez critique. De protéger les femmes de la concupiscence masculine. On va trouver des discours comme ça au 19e siècle qui peuvent avoir une certaine proximité avec des discours religieux, moralistes.
Ou du mouvement ouvrier, Christine Barr, par exemple au moment où certains, la CGT notamment, défend le temps de travail partiel, par exemple, pour les femmes, ou l'interdiction du travail de nuit.
La CGT est justement traversée par ces débats, universalisme, différentialisme, faut-il une protection spécifique, ou cette protection, ne faut-il pas considérer cette protection comme une forme de discrimination ? Par exemple, pour l'interdiction du travail de nuit des femmes, une discrimination qui va empêcher des femmes qui en auraient besoin de travailler la nuit. Et la preuve, certaines professions, certaines femmes dans certaines professions vont avoir des dispenses pour pouvoir exercer la nuit. Donc la tendance protectrice a quand même été très longtemps majoritaire, comme si elle allait de soi. C'est s'attaquer au discours de la différence, qui est très compliqué pour les féministes. Hein, et c'est là la grandeur de Simone de Beauvoir, c'est que philosophiquement, elle a su apporter des arguments extrêmement forts pour battre en brèche ce discours différencié.
Et en même temps, Christine Barr, quand on voit tous les débat autour de la parité, où là, c'est revenu justement de manière assez importante, ce grand débat entre différentialistes et égalitaristes. Et encore, enfin, d'abord, il y a eu les quotas en politique, bien sûr, puis alors après, voilà, avec la loi sur la parité, la discrimination positive, toutes ces initiatives.
Oui, je suis d'accord. Ça se rejoue avec la parité, avec à nouveau des divisions entre féministes.
Comment faites-vous justement pour venir jusqu'à aujourd'hui ? Parce que on sait le plaisir que l'historien ou l'historienne a à travailler sur des documents plutôt anciens, à faire le jour ou à faire réapparaître des figures qui sont méconnues et qui ne sont pas parvenues jusqu'à nous de féministes, en particulier du 18e ou du 19e siècle. Mais effectivement, quand on arrive jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on a à établir des notices, on l'a dit, des notices de gens qui sont encore vivants, de femmes qui sont encore vivantes en particulier, c'est une question peut-être un peu plus difficile. Et puis, peut-être pour faire naître aussi des notions qui sont des notions toutes récentes. Si on prend l'exemple, par exemple, du cas des cyberféministes sur lequel un article a été consacré, d'une certaine façon, vous montrez dans ce dictionnaire combien une modernité technique a à voir avec justement la question des combats féministes, et que cette modernité technique accompagne depuis le début d'ailleurs la question du féminisme, parce que cette modernité technique, c'était celle des usines au 19e siècle, ça a été celle de d'autres types de postes de travail au 20e, et que maintenant la question du net entre dans ce type de débat.
Oui, Christine c'est très Barr. Important. D'ailleurs, on va avoir un petit peu partout des ateliers Wikipédia hein, qui vont piller le dictionnaire et espérons-le faire évoluer un petit peu les statistiques, hein, puisque parmi les...
Qu'est-ce que vous appelez des ateliers Wikipédia qui vont piller le dictionnaire?
Parce que là, voilà... Il s'agit d'ateliers pour des volontaires qui, s'inspirant des notices du dictionnaire, vont compléter des notices de féministes sur Wikipédia, voire les créer. Parce qu'il y a une sous-représentation des féministes dans Wikipédia assez impressionnante et qu'on peut mettre en relation avec le fait que 90% des contributeurs de Wikipédia sont des hommes et qu'ils produisent une encyclopédie à leur image, avec donc très peu de notices biographiques de femmes.
Donc ce que vous appelez de vos voeux, Christine Barr, c'est donc de piller le dictionnaire qui pourtant s'achète en l'occurrence, pour aller vers une encyclopédie.
Alors on l'achète ou on l'emprunte.
qui n'est pas
on
payant,
évite de donc, le voler. Voilà. On peut aller dans des librairies féministes. Vous avez aussi un article consacré aux librairies et aux bibliothèques féministes.
Et donc vous demandez à ce qu'on prenne ces notices, qu'on les utilise pour pouvoir justement créer de nouvelles notices, pour rendre plus égalitaire d'une certaine façon une encyclopédie collaborative comme celle qui est Wikipédia. Ça fait partie aussi du travail d'historien que de s'imaginer qu'aujourd'hui, pour s'informer, quelle que soit la personne, qu'elle soit d'ailleurs étudiante, professeur ou simple quidam, eh bien, il a besoin d'aller sur le net et souvent d'aller sur Wikipédia pour pouvoir connaître la biographie d'une personne, par exemple.
C'est le premier geste qu'on accomplit en découvrant un sujet d'exposé ou un sujet qu'on a exploré. Donc l'enjeu est fondamental, vraiment fondamental. Donc j'espère que les ateliers, on va en avoir un à l'Université d'Angers, un autre à la Bibliothèque Marguerite Durand, j'espère un autre à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, et j'espère que ça va se multiplier partout. Il y a des associations féministes, notamment les 100 pages, qui se consacrent à cette tâche.
Et donc, il y a aussi un blog qui accompagne votre dictionnaire, c'est cela ?
Oui, donc un blog que vous trouverez sur le site de la Fabrique de l'Histoire, qui a une rubrique Esprit de suite, parce que je pense que beaucoup de lectrices et de lecteurs vont se dire, vont avoir des apports, en fait. Et si le dictionnaire... marche bien et qu'on est en mesure de faire une deuxième édition revue et augmentée, on aimerait tenir compte de ces réactions de lectrices et de lecteurs, donc on pourra mettre en ligne dans un premier temps des notices complémentaires ou des ajouts, voire des rectifications. Les vérifications ont été très nombreuses, hein. C'est pour ça que ça prend du temps. Un dictionnaire, c'est quand même très exigeant, très minutieux comme travail. Mais on n'est pas à l'abri d'erreurs. Donc, on a ce blog qui permet un travail
une mise à jour,
et qui anticipe sur les mises à jour.
C'est Rignata.
Et donc, on voit bien aussi dans ce dictionnaire, et puis on l'évoquait tout à l'heure, Christine Barr, ça dit aussi quand même une certaine dynamique des recherches. Hein. C'est jamais assez. Mais, et on le voit bien aussi à travers le dictionnaire, parce qu'il y a beaucoup d'universitaires qui sont à la fois qui ont écrit des notices, mais qui sont noticiers, si je puis dire, et qui font référence aussi à des colloques, à des séminaires, et donc aussi à des recherches toutes récentes sur des figures ou des mouvements du féminisme. Et donc, je sais pas, est-ce que vous, en tant que vous-même, vous avez des étudiantes ou étudiants qui travaillent sur le féminisme ou Sylvie Chaperon, enfin, comment vous analysez peut-être, en ce moment, l'état de l'université sur ces problématiques-là, des recherches sur le sujet.
On en a entendu
à la fois dans des chaires qui sont consacrées que à l'histoire des femmes et du féminisme, et ça, il y en a pas vraiment, et puis dans des cursus plus classiques où cette problématique doit absolument être présente.
On a longtemps dit ici à la Fabrique de l'Histoire qu'effectivement c'était une histoire qui était minorée dans l'université, dans les centres de recherche. C'est peut-être un peu moins vrai maintenant en 2017 que ça l'était lorsque nous avons commencé aux alentours des années 2000, en l'occurrence Christine Barr.
Et d'ailleurs à propos de chaires, c'est vrai qu'elles sont très peu nombreuses.
Elles n'existaient pas au tout début de la période.
Nous venons d'apprendre le décès de Djamila Amran qui avait fait sa thèse sur les femmes du FLN. Il en est un tout petit peu question
dans la notice Algérie du dictionnaire. Et Djamila Amran avait le poste d'histoire des femmes qui a existé à Toulouse et qu'occupe aujourd'hui Sylvie Chaperon. Donc ces postes sont rares, mais l'histoire du féminisme, elle peut se faire en même temps partout. Moi, je n'ai pas un poste dédié à l'histoire des femmes et du genre.
Mais c'est pas toujours facile, ce que certains collègues disent quand même, que c'est pas tout le temps facile dans l'université de, voilà, d'imposer peut-être ou de mener à bien, de convaincre les étudiants.
Oui, c'est vrai, mais la demande étudiante compte. Et dès lors qu'on initie les étudiants à ces sujets-là, histoire des femmes, du genre, du féminisme, pendant la licence et en master, on a beaucoup de demandes. Vraiment, je ne suis pas inquiète du tout sur un éventuel déclin des études sur l'histoire du féminisme. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'un dictionnaire, ça a l'air de peut-être de clore quelque chose ou de figer
faire un premier bilan
de la recherche. Ce serait vraiment dommage de le prendre comme ça. Moi, j'espère que ça va donner envie d'en savoir plus, d'écrire sur d'autres biographies, d'approfondir les sujets qui sont là présentés toujours de manière très synthétique.
Alors, on a beaucoup parlé en général de votre dictionnaire. Je voudrais qu'on s'arrête pour la fin de cette émission avec vous, Christine Bain, sur une notice, par exemple, prise au hasard de celle, parmi celles que vous avez écrites, celle de Marcel Capi, pour bien montrer, par exemple, qu'il y a dans ce dictionnaire des figures qui sont des figures qui ont totalement disparu de l'historiographie en général, d'une certaine façon, et qui sont présentes dans ce dictionnaire. Dites-nous qui était Marcel Capi et pourquoi elle a sa place dans un dictionnaire comme celui-ci, Christine Barr.
Alors, Marcel Capi, elle devient étudiante à Toulouse, devient journaliste et reporter social.
C'est sa première vocation. Elle est née en 1891.
Voilà, c'est sa première vocation. Ensuite, elle est profondément marquée par la guerre, comme beaucoup de féministes de sa génération, et elle devient pacifiste. Elle fonde avec son compagnon socialiste, elle-même aussi est socialiste, La Vague, qui est un des journaux de l'opposition à la guerre. À la fin de la première guerre mondiale. Et ensuite, elle se fait connaître par des ouvrages, des romans à thèse, des ouvrages pour les enfants, des tournées de propagande pacifiste. Et elle est extrêmement populaire. Elle est très recherchée comme conférencière. Elle obtient des prix.
On la décrit comme brune, au regard tranchant, à la voix chaude, aux dents éclatantes, une belle zigane bénévole, écrit Luc Valty dans L'Intransigeant en 1930, par exemple, à propos de cette Marcel Capi. Et ensuite, elle va aborder la Seconde Guerre mondiale avec son ultra-pacifiste, comme beaucoup d'autres d'ailleurs.
Oui, comme une partie minoritaire tout de même des féministes. La plupart, quasiment toutes les féministes étaient pacifistes. Certaines ont pu être des pacifistes assez intransigeantes dans les années 20 et se convertir à l'antifascisme quand même dans les années 30, mais elle fait partie de ces irréductibles ultra-pacifistes, ce qui l'amène à continuer à publier dans un cadre collaborationniste. Mais je ne pense pas que ce soit la raison de l'oubli. Son absence de postérité, c'est surtout que la Deuxième Guerre mondiale est passée par là et qu'on est en plein creux de la vague.
C'était le sujet
de la thèse de Sylvie Chaperon.
Et que les combats, effectivement, de l'entre-deux-guerres sont des combats qui sont peut-être aussi oubliés pendant l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale. Merci, Christine Barr, d'avoir présenté avec Séverine Yatard, donc, ce dictionnaire des féministes, un énorme ouvrage collectif, donc, qui traite de la question des féministes en France, entre le 18e et le 21e siècle, paru aux presses universitaires de France, presque 1700 pages et 32 euros en librairie. Merci à vous. On continuera cette semaine en traitant à la fois avec vous de la question des femmes pendant la Révolution française, Séverine Yatard.
Et notamment, on fera aussi une balade dans l'exposition Présumé coupable, donc qui se tient aux Archives nationales en ce moment.
Cette émission, comme d'habitude, était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marsay. Jean-Richard Dufour était avec nous à la technique et Françoise Camard à la réalisation.